We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? And we're talking about practice.
Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu.
Every day I try to do something to make a thing. Every day, from the morning until the night.
D'un dauphin, t'en fais pas un requin. D'un dauphin, t'en fais pas un requin.
But we talking about practice right now.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bot Practice, le podcast de l'IFRAB. Après une petite pause d'un an et demi, l'émission est de retour pour une toute nouvelle saison que je démarre aux côtés de Yann Julien. Bonjour Yann, comment vas-tu?
Ben Romain, écoute, très bien. Merci pour l'invitation.
Eh bien, pas de souci, je suis très heureux de te recevoir. Et donc Yann animait auparavant cette émission avec Pierre-Olivier Croizat, qui devait être avec nous ce soir, mais qui a malheureusement un petit empêchement. Donc, je vais en profiter également pour me présenter rapidement, puisque je serai le nouveau présentateur de ce podcast pour cette deuxième saison. Donc, je m'appelle Romain Loisy et je suis actuellement en stage au service communication de l'IFRAB. Et la ligne éditoriale restera sensiblement la même que pour la première saison, c'est-à-dire qu'on va vous partager des recommandations autour du coaching, de l'entraînement et de l'univers du basket, mais on va aussi échanger avec des personnalités de ce sport à propos de leur parcours, de leur situation actuelle, de leurs ambitions et bien plus encore. Donc sans plus tarder, on va commencer par un petit entretien donc avec Yann, puisque depuis la fin de la première saison de ce podcast, tu as quitté l'IFRAB et tu es notamment devenu entraîneur de l'équipe de France féminine de 3 contre 3. Et tu as déjà un beau palmarès à la tête de cette équipe avec un titre de champion du monde et un titre de champion d'Europe l'année dernière. Donc déjà, félicitations pour ça, Yann.
Bah, merci Romain, sympa.
Et avant de parler du coup de cette aventure avec l'équipe de France, moi je voulais savoir comment a commencé ton aventure dans le 3 contre 3. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans?
Je suis tombé dans 3-3 vraiment par hasard. On va dire que la vie, elle est faite parfois d'opportunités. En fait, je me retrouve un été où on me passe un coup de fil. L'entraîneur de l'équipe de France U18 féminine de 3-3 me passe un petit coup de fil en me disant qu'ils ont un petit souci de staff et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire la vidéo un peu au dernier moment. Et je pense que j'accepte un peu par goût de l'exotisme, goût d'une nouvelle aventure, mais je connaissais vraiment rien au 3-3, vraiment rien. Et puis du coup, j'apprends carrément les règles du 3-3 dans le train en allant en stage. Alors c'était il y a un certain temps déjà, hein, et puis en fait, on a un joli alignement des planètes. Le stage se passe plutôt bien, je pense que j'arrive à trouver ma place assez rapidement dans ce groupe-là, avec des joueuses fantastiques, et puis les filles arrivent à battre Team USA en finale de cette Coupe du Monde de U18, c'était en 2016 je crois, et puis voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage comme ça, et puis après j'ai passé les étages au fur et à mesure, mais sans jamais vraiment avoir une autre ambition que d'essayer de faire du mieux que je pouvais, et puis surtout de m'éclater dans cette discipline, voilà.
Ok, d'accord. Et donc ça remonte à quelle année, ça, les premiers pieds dans le 3 contre 3?
Je crois que c'est 2016, je dirais, en fait, parce que les années précédentes, j'étais assistant sur l'équipe de France, j'ai fait une Coupe du Monde U17, 5-5, féminine, et puis l'année d'après, une Coupe du Monde U19, toujours féminine, en tant qu'assistant. Et en fait, j'ai mon deuxième fils qui est né, j'ai voulu un petit peu peut-être lever un peu le pied pendant les étés et j'avais décidé d'arrêter le 5-5. Mais c'est vrai qu'on passe un coup de fil en 2016 en disant écoute Yann, on est vraiment embêté, il y en a juste pour une semaine. Et voilà, puis j'ai accepté comme ça, c'était 2016 je crois.
Ok, ça marche. Donc ce basket 3 contre 3, ça t'a amené déjà à devenir premièrement coach U23, puis coach de l'équipe de France féminine il y a un an et demi. Et donc toi, ouais. Comment t'as vécu cette transition? Est-ce que c'était vraiment pour toi un accomplissement de devenir coach de l'équipe de France?
Alors sincèrement, non. non. C'est des choses. En fait, je me suis pas levé un matin en me disant tiens ouais chouette, je voudrais vraiment être absolument coach de l'équipe de France féminine de 3-3. C'est vraiment des choses qui se sont présentées au fur et à mesure et que j'ai pas forcément cherchais absolument à avoir. Voilà, ce qui me plaît, moi, dans ce job, c'est d'arriver à bosser en équipe, c'est de développer un projet, c'est d'essayer d'accompagner du mieux que je peux des gens, effectivement, à exploiter pleinement leur potentiel. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais assistant sur les U18, puis après assistant sur les U23, coach des U23. Puis c'est vrai, quand on m'a présenté le truc sur les seniors, forcément, quand on vous présente ça, c'est sympa. Vous vous dites que forcément, il y a un projet hyper intéressant à développer. Et ben, c'est juste ça, effectivement, qui m'a vraiment motivé. Après, je dirais pas que c'est un accomplissement. Ou sinon, on est toujours, en fait, je pense que dans la vie d'un coach, on cherche systématiquement de nouveaux challenges. Et les challenges, pour moi, se sont présentés de cette manière-là. Mais à cette époque, j'étais coach des U23, j'étais effectivement à l'IFRAB, et c'est vrai que je m'éclatais aussi dans ce job-là, tu vois. J'ai pas du tout cherché à en partir. Voilà, ça s'est présenté, je l'ai pris, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate dans cette fonction-là. C'est génial, hein. Mais je ne dirais pas pour autant que c'est un accomplissement, quoi.
Ok, ça marche. Et donc maintenant, on va forcément parler d'un sujet très en vue qui approche petit à petit, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que tu pourrais donc nous faire un petit point sur la situation des équipes françaises de 3 contre 3 dans cette course à la qualification, où est-ce qu'on en est ?
Alors ouais, déjà ce qu'il faut arriver à savoir, c'est que malgré le fait que les Jeux soient à Paris, en tant que pays hôte, on n'est pas sûr d'avoir les garçons et les filles de qualifier. Okay. On est sûr par contre qu'au moins une des deux équipes sera au jeu. Je vais pas essayer de rentrer dans un truc trop complexe, mais en fait, au 1er novembre 2023, on va regarder le classement des garçons et des filles, ce qu'on appelle le ranking. Et entre les garçons et les filles, celui qui sera le mieux ranké, le mieux classé, eh ben lui aura le ticket en tant que pays hôte de qualification au jeu. Et la deuxième équipe, elle, devra passer par le système réglementaire de qualification. C'est entre autres les tournois de qualification olympique, ce qu'on appelle les TQO. Et là, en tant que pays hôte, on est sûr, il y en a trois TQO, et là, nous, on sera sûr d'en faire au moins deux si jamais on n'arrive pas à se qualifier au travers du premier. Voilà. Et ces TQO auront lieu très probablement autour, on va dire, de février-mars 2024. Et le deuxième, si on n'est pas qualifié, carrément au mois de juin 2024.
Ok, d'accord. Et là, pour l'instant, du coup, à l'heure actuelle, est-ce que c'est les filles ou est-ce que c'est les garçons qui sont le mieux classés pour l'instant, vu que tu as dit que du coup, ce serait fixé en novembre, mais pour l'instant, on en est où là du classement? C'est plutôt les filles ou les garçons qui sont devant?
Alors, pour l'instant, ce sont plutôt les filles, hein, parce qu'à ce jour, elles sont numéro 1 mondial. Okay. Et les garçons sont numéro 8. Par contre, dans le système de compétition, le système de classement du 3-3, les cartes sont complètement rebattues cet été. C'est-à-dire que c'est comme si on revenait un petit peu à zéro cet été, malgré la saison extraordinaire accomplie l'été dernier par les filles. Malgré tout, on repart de zéro cet été. C'est pas parce qu'on est champion du monde en 2022 et champion d'Europe en 2022 qu'on est sûr de terminer premier en 2024. Donc voilà, il va falloir faire un été autant en filles qu'en garçons de toute beauté pour pouvoir essayer d'accrocher notre place au jeu.
Ok, ça marche. Et donc imaginons que ton équipe se qualifie et que tu sois coach des filles au JO 2024, ce sera quoi les ambitions? Est-ce que du coup que ne pas décrocher une médaille avec les filles en France devant le public français, est-ce que ça serait pour toi synonyme d'échec après avoir fini quatrième aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a 2 ans?
Oui, ça serait synonyme d'échec, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Par contre, j'essaye de le voir, même si ça veut dire la même chose, hein, mais j'essaie de le voir différemment. Aujourd'hui, je me dis que faire les Jeux à Paris, c'est une opportunité extraordinaire. Et qu'on a le droit d'avoir des ambitions, et dans ces ambitions-là, avec les filles, c'est souvent qu'on se dit qu'on aimerait bien effectivement aller chercher la médaille d'or, et je pense qu'on en a les capacités. Maintenant, il y a encore énormément de travail à accomplir, on va avoir une concurrence qui va être extrêmement féroce, il faut se qualifier au jeu, et si effectivement on a le bonheur de se qualifier au jeu, il faudra effectivement que derrière on essaye de performer en mettant toutes les chances de notre côté pour pouvoir réussir, mais oui, on a le droit de penser à la médaille d'or.
D'accord, ok, super. Et donc, Est-ce que bah, du coup, le prochain objectif principal, c'est ça? Ou est-ce que bah, là, je crois que tu en as déjà parlé un petit peu, du coup, est-ce qu'il y a d'autres échéances à venir là, courant 2023 ou bien même début 2024?
Alors, ce qu'il y a de bien avec le 3-3, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que du coup, cet été, on a un programme hyper chargé. En fait, on va enchaîner quatre grandes compétitions. Alors, il y en a trois qui sont sur un tournoi unique. Hein, donc, on va avoir la Coupe du Monde en Autriche, là, fin mai, début juin. Donc ça va être la première grande échéance. On a une deuxième échéance qui est quasiment dans la foulée, qu'on appelle les Jeux européens. Ce sont comme des Jeux olympiques à l'échelle européenne, où il y a toutes les disciplines, tous les sports confondus. On va avoir du judo, on va avoir du triathlon, et puis on va avoir effectivement du basket 3-3. Cette compétition est assez prestigieuse, elle est plutôt bien médiatisée. À la fin de l'été, on va avoir la Coupe d'Europe, là qui aura lieu à Jérusalem en Israël. Et en fait, tout au long de l'été, on a une quatrième compétition qu'on appelle la Women's Series. Et en fait, ce sont des tournois qui vont être un petit peu partout dans le monde, qui vont être étalés tout au long de l'été. Et puis, en fonction de nos résultats dans tous ces tournois-là de la Women's Series, et ben on se qualifie ou pas pour la finale mondiale de la Women's Series qui aura lieu en Mongolie après la Coupe d'Europe mi-septembre. Voilà, c'est les quatre grandes compétitions et effectivement on a des ambitions pour ces quatre compétitions, sachant que l'été va être très intense et qu'il va falloir qu'on garde en tête quand même cette idée de dire qu'il faudra bien se gérer tout au long de l'été pour pouvoir essayer d'être performant les moments choisis.
Ouais, c'est sûr, ça fait un programme bien chargé du coup.
Ouais, complètement.
Et pour parler d'un sujet un petit peu différent, moi je suis allé du coup me renseigner sur ton LinkedIn pour préparer ce podcast et j'ai vu que tu postais régulièrement des sortes de petits conseils, des choses que tu vivais en tant que coach, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de partager un peu ce quotidien de coach de l'équipe de France ou de transmettre grâce à ton expérience?
En fait, j'ai toujours aimé partager, parce que du coup, lorsque j'étais à l'IFRAB, en fait, dans une de mes missions, c'était des fois de faire des interventions auprès d'entraîneurs, des interventions pédagogiques, et de pouvoir effectivement un peu échanger avec eux pour pouvoir parler de différents sujets autour du basket, hein, alors plus du 5-5 à l'époque. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, cette espèce de d'interaction qu'on peut avoir effectivement avec une espèce de communauté de coachs, parce que je pense sincèrement qu'on grandit au travers de ça. Et j'avais une utilisation dans le passé des réseaux sociaux assez basique. Des fois, je mettais un truc, mais bon, c'était franchement pas très recherché. Ouais. Et puis là, c'est vrai que dans l'année, plusieurs personnes m'ont dit « Putain, ça serait bien si à un moment tu pouvais partager ce que tu vis ou ta vision des choses sur les réseaux sociaux. » Et j'étais pas trop implanté sur LinkedIn. Et puis, je sais pas, je pense que ce réseau social était peut-être certainement le plus adapté à ce que je voulais partager. Puis je pense que j'ai commencé à trouver peut-être un peu les sujets qui me parlaient à moi. Et voilà, j'ai commencé à échanger là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est cool parce que ça me permet de me faire des contacts aussi et puis de pouvoir échanger avec ces contacts-là. Et c'est marrant parce que du coup, ça a provoqué des fois des visios avec d'autres coachs. Et puis c'était bien parce que du coup, chacun a échangé sur son expérience. C'est hyper enrichissant. Et c'est vrai que on m'aurait posé la question de ce réseau social-là. Il y a encore 2 ans, jamais j'aurais pu penser ça, mais en fait, puis ça me fait du bien aussi à moi, ça me permet un peu de clarifier un peu ma pensée, et quand on fait cet effort un petit peu d'écriture.
Ouais, d'extérioriser un petit peu.
Ouais, ça structure un peu, ça permet que les choses soient finalement après plus claires dans sa tête, que de faire ce travail d'écriture-là. Et c'est vrai que je me l'impose une fois par semaine, là, je prépare mon petit truc le dimanche. Et puis je poste dans la semaine, mais non, c'est cool. Ça, moi, ça me fait du bien en tout cas à moi. Et puis j'espère que les gens effectivement apprécient. Je suis plutôt des retours assez sympas et ça me permet effectivement d'avoir de nouveaux contacts. C'est cool.
Ouais, c'est sûr. Puis je pense que LinkedIn, c'est vraiment la plateforme appropriée pour ce genre de contenu un petit peu. Et puis ça a l'air en plus d'intéresser pas mal de monde. Il y a souvent pas mal de réactions et je vois que tu échanges avec de nombreuses personnes. Donc c'est. C'est vraiment cool d'avoir trouvé en quelque sorte ce créneau-là pour échanger là-dessus, quoi.
Ouais, carrément, ouais. C'est un truc que je ne m'y attendais pas trop, et puis en fait, c'est vachement positif.
Ok. Top. Et donc, dernière petite question pour clôturer ce petit entretien et après, on va passer à nos recommandations. Donc, pour se porter vers l'avenir rapidement, toi, du coup, comment tu vois la suite de ta carrière en tant que coach? Est-ce que tu la vois donc toujours à la tête de cette équipe de France 3 contre 3 ou est-ce que tu as encore d'autres projets en tête, même qui n'ont pas de lien avec le 3 contre 3?
Alors, sincèrement, aujourd'hui, je suis très, très focus sur les jeux. C'est quelque chose auquel je pense tous les jours, si ce n'est même quasiment toutes les heures. Et puis, je pense aussi beaucoup à une autre casquette, à une autre partie de mon job qui est la coordination un peu des équipes de France jeunes 3-3. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles je pense énormément et j'essaie de tout faire pour réunir les meilleures conditions possibles pour pouvoir réussir. Voilà, que ce soit pour les équipes de France jeunes et puis bien sûr pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse arriver à briller au jeu. Mais au-delà des jeux, je t'avoue que je n'ai pas encore trop réfléchi, puis je ne pense pas que ce soit le bon moment pour réfléchir à ça. Je veux vraiment essayer de faire en sorte qu'on se qualifie, si on y arrive, de faire en sorte que ces jeux-là soient les plus réussis possibles. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je pense qu'il faudra vraiment que je me pose un moment pour décider ce que je veux faire. Après, il y a un truc dont je suis sûr aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, je commence peut-être à mieux me connaître. Je sais que ce qui me botte vraiment, c'est bosser en équipe. Ça, c'est un besoin vital. J'arrive pas à être bon si j'ai pas j'ai pas des gens avec qui je peux échanger. Ça c'est certain. Et donc j'ai besoin d'une équipe pour pouvoir vraiment m'éclater. Et certainement que mon futur s'inscrira encore dans le basket et en équipe. Ce sera peut-être effectivement dans le 3-3. Ce sera peut-être un autre poste ailleurs. Ça, je sais vraiment pas aujourd'hui. Mais je veux vraiment me laisser d'abord faire les jeux, puis après on verra ce qui adviendra, si j'ai de l'énergie, si j'en ai pas, ce que j'ai envie de faire, si on veut encore de moi aussi, parce que c'est aussi une réalité du sport de haut niveau. Hein. Ouais. Bon, il faut l'avoir aussi en tête. Et voilà, donc je me laisse les jeux, puis après on verra.
Ouais. Ok, bah, ouais, c'est sûr que je comprends, parce que c'est ces jeux de Paris qui arrivent bientôt, ça représente tellement pour tous les Français et pour tous les sportifs français que forcément c'est une telle étape dans ta vie de coach que c'est sûr que se projeter au-delà pour l'instant ça doit être peut-être plus difficile que vu qu'il y a cet objectif qui est vraiment d'abord à passer cette étape et après ouais on verra quoi comme t'as dit.
Ouais, complètement. Ouais.
Et ben merci Yann pour toutes ces réponses. On va pouvoir passer à la deuxième partie de ce podcast où on va chacun vous partager une recommandation donc, autour du basket, du coaching ou de l'entraînement. Et si tu veux, je peux te laisser commencer en premier.
Alors écoute, je vais te parler d'un bouquin. Alors cette fois-ci, j'essaie de lire régulièrement et puis des trucs qui puissent me permettre un petit peu de m'éclairer tu vois, dans ma pratique professionnelle. Et là, le bouquin dont je voudrais vous parler, ça s'appelle « Du sexisme dans le sport ». C'est de Béatrice Barbus. Je ne connais pas Béatrice Barbus, mais je sais qu'elle a été à la Fédération française de hand. Elle est sociologue et puis donc du coup elle a écrit sur le sexisme dans le sport. Et en fait, bon, moi je me retrouve effectivement à la tête d'une équipe de France féminine de basket 3-3 et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque part un peu ces questions sociétales, d'autant plus dans le sport. Il y a une forme de prise de conscience à avoir. Et en fait, des fois, je ne me sens pas à l'aise parce que forcément, moi, je suis un homme. Et donc, du coup, comment est-ce qu'à un moment, je peux mieux appréhender ces sujets-là qui peuvent avoir une influence quand même sur les athlètes que je coach. Voilà. Et en fait, ce bouquin est plutôt bien fait parce qu'il enchaîne à la fois une analyse sociologique. Et puis aussi, à la fois, elle y met dedans, elle tient un journal, et donc des fois, elle met des extraits de son journal dedans, avec elle, ce qu'elle peut vivre en tant que femme dirigeante dans le sport, parce qu'elle était présidente du club de hand de Ivry en première division masculine. Et ouais, ce bouquin est plutôt vraiment bien foutu, il est accessible. Des fois, quand on lit certains bouquins d'universitaires, c'est des fois un petit peu dur à lire. Mais là, franchement, le bouquin est vraiment bien écrit, c'est hyper accessible. Et voilà, j'invite tout le monde effectivement à lire ce genre de bouquin-là. Donc, je ne l'ai pas encore fini, hein, j'en suis à la moitié. Mais j'ai trouvé que, en tout cas, moi, dans ma position, ça me permet d'être un peu moins ignare, des fois. J'essaye, en tout cas, okay, notamment par rapport à ces questions de sexisme dans le sport.
Ok, ça marche. Et donc, moi, je vais enchaîner en vous parlant de quelque chose qui vous parle peut-être, c'est la série Last Chance U Basketball, disponible sur Netflix, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est une série documentaire dans laquelle on suit le quotidien d'une équipe universitaire de Los Angeles. Et la saison 1 est sortie en mars 2021. Et c'est une équipe qui est entraînée par John Mosley, qui a réussi à relancer l'équipe de l'université tant bien que mal et qui doit gérer un effectif bien particulier qui regroupe de nombreux jeunes qui ont l'espoir de décrocher une bourse universitaire ou bien d'être repérés par des scouts de première division. Et ces différents joueurs, ils partagent généralement un passé douloureux ou compliqué et ils souhaitent se construire un avenir meilleur grâce au basket. Et parmi eux, on a par exemple un joueur qui a perdu sa mère, on en a un autre qui a purgé une peine de prison alors qu'il était au top niveau auparavant. Et cette série de documentaires, je la trouve vraiment bien faite parce qu'elle nous permet d'être immergés au milieu du quotidien de cette jeune équipe, de découvrir leurs faiblesses et de s'attacher à eux. Et c'est un récit, je trouve, très bien construit. Entre tous les matchs, les séances d'entraînement, les discours du coach, ou bien même on a un séjour de cohésion d'équipe. Et à travers cette saison, on découvre aussi du coup un coach vraiment emblématique qui doit faire face à des jeunes pas faciles, mais qui donne tout pour souder son équipe, pour motiver ses troupes et pour que ses joueurs ils se battent aussi pour avoir une vie meilleure par le basket. Et les critiques sont pour la plupart quand même très élogieuses. Elles mettent en avant les fortes émotions transmises. Et donc, si vous voulez vivre des émotions fortes en étant plongé dans l'univers du basket américain, il n'y a pas à hésiter. Et en plus, ce n'est pas l'unique sujet du documentaire. Ça ne tourne pas que autour du basket, même si c'est le point d'entrée. Il y a plein d'autres sujets qui sont abordés, comme la seconde chance, la lutte des classes, etc. Et je pense que même une personne qui n'est pas forcément fan de basket, elle peut apprécier cette série grâce à toutes les dimensions qu'elle aborde. Et pour parler plus d'actualité, justement, la deuxième saison, je ne l'ai pas encore vue, mais elle est sortie récemment en décembre. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme il s'agit de la vraie vie, on peut ensuite aller se renseigner sur ce que sont devenus les joueurs de cette université pour aller au-delà de la série et de voir ceux qui ont réussi ou non et quels sont leurs projets actuels. Donc, c'est à peu près tout. C'est deux saisons de 8 épisodes disponibles sur Netflix. Alors, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc, c'était à peu près tout.
Elle est sympa, cette série. Je trouve qu'aujourd'hui, on a accès... Alors, certains documentaires, des fois, sont parfois romancé, mais c'est pas tant ça, parce que tout ce qu'on va voir dans les documentaires, ce sont effectivement des choses qui sont réelles, mais parfois le montage peut faire monter un peu la dramaturgie. Je pense notamment au documentaire sur Netflix aussi, Formula One Drive to Survive, je crois que c'est ça. Mais sur Last Two Chance, effectivement, je trouvais ça plutôt sympa. On a l'impression effectivement d'être un petit peu immergé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas que le côté brillant.
Oui, c'est ça.
On voit aussi les galères. Et je trouve que ça donne une vision un peu plus proche de la réalité, effectivement, de ce qu'on peut vivre quand on essaye effectivement de gravir les échelons vers le haut niveau. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et ce documentaire-là est plutôt bien fait pour ça.
Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on voit que tout est pas tout rose et qu'ils traversent des trucs vraiment pas faciles. Et ça rend vraiment le truc très, très réel, quoi. C'est ça qui est bien.
Ouais, carrément.
Et donc, on devait finir ce podcast par un petit quiz, mais on a été contraint d'annuler avec l'absence de Pierre-Olivier, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, merci Yann d'avoir répondu présent pour ce premier épisode et d'avoir échangé avec moi et répondu à mes questions, c'était un plaisir.
Écoute, plaisir partagé Romain, je suis très très content que tu puisses prendre ce podcast en main, parce qu'avec Pierre, ça a été une belle aventure. De lancer ce podcast, à l'époque, c'était pendant le premier confinement ou le deuxième, je ne sais plus. Et c'est un super format le podcast. Ça permet de se poser un peu et puis de papoter, tu vois, un peu comme on pourrait le faire
Ouais, c'est
sur le
ça.
coin d'un comptoir.
Ouais, c'est ça.
Et puis de pouvoir partager aussi bah, un peu nos idées, nos recommandations. Et peut-être, bah, des fois, peut-être aussi de permettre à des gens d'y réagir et d'amener à leur tour leur contribution. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce type de format que le podcast. Donc,
Ouais,
très
c'est ça.
cool.
Ouais, c'est ça. Puis moi, bah, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, bah, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis voilà.
Et bah, super.
Et bah voilà, bah c'est donc la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Bot Practice.
Salut Romain, au revoir à tous.
Salut. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? And we're talking about practice.
Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire. On sort pas sur les pick and roll, on les laisse shooter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu.
Every day, I try to do something to wake up them. Every day, from the morning until the night.
Don't do fun, t'en fais pas un requin. Don't do fun, t'en fais pas un requin.
But we talking about practice right now.